VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le monde aujourd'hui. Eric Manirakiza à la présentation de cette édition du mercredi 14 juillet 2021. Voici d'abord le sommaire. En Afrique du Sud, crainte de pénurie après 6 jours de pillage et de violence. En Éthiopie, le Premier ministre promet de repousser la nouvelle offensive rebelle au Tigré. Au Sénégal, record de contamination au Covid-19, alors que le pays se prépare à la fête musulmane de la Tabaski. Et l'ancien président américain George W. Bush critique le retrait des troupes américaines d'Afghanistan. Une erreur, selon lui. Dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et les sports, mais d'abord le journal. En Afrique du Sud, la peur de manquer d'essence et de nourriture a envahi les habitants au 6e jour des violences qui continuent de se propager et ont déjà fait 72 morts sur fond de chômage endémique et de nouvelles restrictions anti-Covid. Les détails avec Marius Muhunga.
Ce matin, les chaînes locales ont montré en boucle les dégâts des derniers pillages. La veille, la plus grande raffinerie du pays a fermé pour cause des forces majeures son usine près de Durban dans les KwaZulu-Natal, qui fournit environ un tiers du carburant consommé dans le pays. Des pénuries sont à craindre, a prévenu l'association des automobilistes. Certaines stations sont déjà à sec et d'autres rationnent à la pompe. Selon la principale organisation d'agriculteurs, certains producteurs ne peuvent plus acheminer leurs marchandises, la route principale menant vers l'est étant coupée. Lundi soir, après avoir pris la décision de déployer l'armée, le président Cyril Ramaphosa avait déjà mis en garde contre des risques de pénurie si la spirale de la violence continuait. Les premiers incidents ont éclaté au lendemain de l'incarcération jeudi de l'ex-président Jacob Zuma, condamné à 15 mois de prison ferme pour outrage à la justice. L'Union africaine a condamné la flambée des violences qui a entraîné la mort des civils et des scènes effroyables de pillage, appelant à un rétablissement urgent de l'ordre.
L'abbé Léon Douillon, curé de Ségué, dernier membre encore détenu d'un groupe de 5 catholiques maliens enlevés le 21 juin par des hommes armés dans le centre du Mali, a été libéré, a-t-on appris mercredi de sources ecclésiastiques et administratives. 4 d'entre eux avaient été libérés 2 jours plus tard. La justice gambienne a condamné mercredi à mort Yankuba Touré, ancien membre de la junte de l'ex-président Yahya Jammeh, pour le meurtre du ministre des Finances Ousmane Koro Sessé, retrouvé carbonisé dans sa voiture officielle en juin 1995. Cette peine doit être exécutée par pendaison, une sentence qui a peu de chances d'être exécutée en raison d'un moratoire sur la peine de mort. Au Cameroun, un célèbre journaliste et directeur de Radio Spot Info, Martin Camus Mimbe, et un de ses proches comparaîtront à partir du 22 juillet devant un tribunal de Douala, notamment pour proxénétisme, après la diffusion sur les réseaux sociaux d'une sextape impliquant une jeune femme. Marie-Thérèse Abena Ondoua, ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, a dénoncé des actes abominables et malsains qui font de la jeune femme un objet et un objet sexuel sans valeur. En RDC, l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo est assigné à résidence surveillée. Il est accusé d'avoir payé plus de 110 millions de dollars à des créanciers fictifs, victimes de la zaïranisation des entreprises étrangères lorsqu'il était au gouvernement. Toujours en RDC, des organisations environnementales dont Greenpeace se sont opposées mercredi à la levée annoncée de la mesure d'interdiction de nouvelles attributions des concessions forestières en RDC. La ministre congolaise de l'Environnement a proposé vendredi au Conseil des ministres un plan qui préconise la levée du moratoire en cours. La police kényane a utilisé mercredi des gaz lacrymogènes pour disperser des étudiants manifestant contre la hausse des frais de l'université de Nairobi, selon des journalistes de l'AFP. Les heurts ont éclaté lorsque des étudiants en médecine de l'université ont barré des routes de la capitale et lancé des pierres sur les voitures, selon les mêmes sources. Le roi Zoulou a appelé mercredi au retour de la paix, affirmant que ces violences font honte à ceux qui les commettent. Ces violences ont apporté une grande honte sur nous tous, a déclaré Misuzulu Zulu en soulignant que ce chaos détruit l'économie et ce sont surtout les pauvres qui vont souffrir le plus. En Éthiopie, le premier ministre Abiy Ahmed a promis mercredi de repousser la nouvelle offensive des rebelles de la région du Tigré dans l'extrême nord du pays. Le point avec Rosine Mounezer.
Nous nous défendrons et nous repousserons ces attaques de nos ennemis internes et externes tout en travaillant à accélérer les efforts humanitaires, a déclaré mercredi M. Abiy Ahmed sur Twitter. Le Premier ministre n'a pas dit précisément à qui le terme « ennemi externe » faisait référence. Lundi, les forces rebelles du Tigré ont lancé une nouvelle offensive dans le sud et l'ouest de la région. Elles avaient déjà repris contrôle d'une grande partie du Tigré fin juin, conduisant le gouvernement à déclarer un cessez-le-feu. Mercredi, Abiy Ahmed a rappelé que le gouvernement a déclaré ce cessez-le-feu afin de donner aux gens un sursis durant la saison agricole et pour permettre aux opérations d'aide humanitaire d'agir sans entrave. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a appelé lundi les États membres à envisager des sanctions contre l'Éthiopie, car selon lui, la situation est la pire jamais connue.
Le Sénégal dit avoir enregistré un nombre record de contaminations au Covid-19, mais les autorités restaient silencieuses sur d'éventuelles nouvelles restrictions sanitaires alors que les Sénégalais s'apprêtent à voyager en masse pour célébrer l'Aïd la semaine prochaine. Nathalie Barge.
Dans son bulletin quotidien, le ministère de la Santé a indiqué que sur 2854 tests réalisés, 733 étaient positifs, soit un taux de positivité de plus de 25%. Il y a tout juste une semaine, le pays n'avait enregistré que 127 nouveaux cas. Avec la moitié des nouvelles contaminations, la région de Dakar est la plus touchée. Au cours de la dernière semaine, 3160 cas ont été enregistrés au Sénégal, faisant passer le nombre total de contaminations de 44 436 à 47 596. De nouveaux décès ont été annoncés ce mercredi pour un total de 1203 depuis mars 2020. La plupart des restrictions sanitaires comme le couvre-feu et les interdictions de rassemblement ont été levées par le président Macky Sall après des émeutes en mars. Le syndicat national des médecins a appelé le gouvernement à interdire tous les rassemblements. D'éventuelles nouvelles restrictions risquent d'être impopulaires à quelques jours de la Tabaski. Cet événement est pour de nombreux Sénégalais l'occasion de rentrer dans leur région d'origine en empruntant des bus et taxis collectifs bondés.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le retrait des troupes américaines d'Afghanistan suscite des inquiétudes au moment où les talibans disent s'être emparés d'un poste frontière clé avec le Pakistan. L'ancien président américain George Bush critique ce retrait pendant que le Royaume-Uni dit être disposé à collaborer avec les talibans. Le point avec Mohamedou Oumfa.
L'offensive des talibans se poursuit face à une armée afghane privée du crucial soutien aérien américain. Les talibans ont dit ce mercredi s'être emparés d'un poste frontière important avec le Pakistan, ce qu'ont démenti les autorités afghanes. Après s'être emparés d'un district isolé de la province de Takhar, dans le nord du pays, les talibans ont annoncé dans une lettre à l'imam local les nouvelles règles. Les femmes ne peuvent aller au marché sans un accompagnateur masculin et que les hommes ne doivent pas raser leur barbe. Fumer est interdit et les talibans ont averti qu'ils s'occuperont sérieusement de quiconque viole ces règles. Le ministre britannique de la Défense, Ben Wallace, a déclaré que son pays va collaborer avec les talibans s'ils entrent au gouvernement et respectent les droits de l'homme. Pour sa part, l'ancien président américain George Bush, qui avait envoyé les troupes américaines en Afghanistan en 2001, a critiqué le retrait des troupes. Dans un entretien avec la Deutsche Welle, il a fait savoir que c'est une erreur dont vont pâtir les femmes et les filles afghanes.
Les États-Unis commenceront pendant la dernière semaine de juillet à évacuer par avion les Afghans qui ont aidé l'armée américaine ainsi que leurs familles, a annoncé mercredi un haut responsable américain. Les troupes américaines prévoient de boucler le retrait d'Afghanistan le 31 août après avoir passé 20 années dans le pays. Le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, a affirmé que la Chine était à la fois un partenaire nécessaire du monde occidental et un rival en termes de modèle lors d'une visite à Washington mercredi. La Chine a changé, a affirmé le ministre des Affaires étrangères, citant par exemple le discours au contenu agressif de Xi Jinping lors du centenaire du Parti communiste chinois. L'ONU s'est inquiété mercredi des solutions proposées par des acteurs privés ou des gouvernements pour réguler les contenus en ligne, mais qui s'avère contraire aux droits de l'homme, certains profitant aussi des excès du net pour museler les critiques. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Place maintenant à l'actualité économique. Nous retrouvons ce soir Claire Morin-Gibourg pour la Minute Éco.
En Afrique du Sud, les violences vont coûter cher aux opérateurs télécoms. L'autorité indépendante des communications du pays a dénoncé hier des actes de vandalisme sur 113 tours télécoms dans le KwaZulu-Natal et à Johannesburg. Son président a lancé un appel aux communautés pour aider à protéger les infrastructures télécoms. Le Fonds international de développement agricole, ou FIDA, lance un programme de financement pour les exploitations familiales. Son programme contre l'aggravation de la faim et de la pauvreté dans les pays les plus pauvres, avec participation du secteur privé, va offrir des prêts, des instruments de gestion des risques et des prises de participation. Un premier prêt de 5 millions de dollars a été accordé à Babangona, une entreprise nigériane qui aide les petits exploitants à passer d'une agriculture de subsistance à un modèle commercial. Ici aux États-Unis, Wall Street a ouvert en hausse après les commentaires du président de la Fed sur l'inflation et par une nouvelle vague d'excellents résultats d'entreprises. Pour la Réserve fédérale, la récente poussée d'inflation est transitoire et elle devrait ralentir d'ici quelques mois.
Et nous passons directement à votre page des sports, Yacouba Ouédraogo, avec nous ce soir. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Nous commençons avec des nouvelles de la NBA. Milwaukee repart à l'abordage ce soir après avoir rebondi dimanche face à Phoenix 120-100. Bagasikura.
Oui, les Bucks ne sont plus menés que 2-1 dans cette série au meilleur des 7 matchs. Parmi les joueurs en vue, côté Milwaukee, Giannis Antetokounmpo, surnommé le Greek Freak, monstre grec, le basketteur d'origine nigériane, a signé dimanche une ligne de statistiques gargantuesques, 41 points, 13 rebonds et 6 passes décisives pour seulement une balle perdue. Cette performance XXL lui permet de rentrer dans le cercle très fermé des joueurs ayant inscrit plus de 40 points lors de 2 matchs consécutifs en finale NBA, devenant le 6e joueur de l'histoire du basket américain à réussir une telle prouesse.
Merci Bagassi. Justement, né à Athènes en Grèce, Gianni est d'origine nigériane, ses parents étant des immigrés nigériens. Dans cette NBA, il côtoie des basketteurs africains comme les Camerounais Joel Embiid et Pascal Siakam. Entre autres, des talents africains dans la NBA, Gianni espère en voir plus.
Tout au long de l'année, j'ai eu l'occasion de constater qu'il y a beaucoup de joueurs africains. Il y a aussi beaucoup de joueurs nigériens qui jouent avec des équipes. Cela montre à quel point le talent peut venir d'Afrique. J'ai eu l'occasion d'y aller il y a 6 ans avec ma famille et de voir par moi-même. J'ai pu entraîner ces jeunes enfants, des jeunes enfants. Ils avaient mon âge, mais c'était des enfants et ils avaient tellement de talent. J'espère donc qu'à l'avenir, nous pourrons voir plus de jeunes Africains rejoindre la NBA.
Gianni Antetokounmpo, joueur des Milwaukee Bucks. Athlétisme. Timothy Cheruiyot, initialement non qualifié pour les Jeux Olympiques de Tokyo, figure finalement dans la liste des sélectionnés du Kenya annoncée hier. Le champion du monde du 1500 mètres remplace le jeune Kamar Etiang, deuxième des sélections, mais écarté pour ne pas s'être conformé aux mesures antidopage qui exigent 3 contrôles hors compétition au cours des 10 derniers mois. En fait savoir les responsables de l'athlétisme kenyan, Cheruiyot n'a pris que la 4e place lors des sélections kenyanes en juin. Mais ce mois-ci, le coureur de demi-fond de 25 ans a réalisé de très bons chronos en Ligue de Diamants lors de ses victoires à Stockholm et Monaco, 3 minutes 28 secondes, meilleure performance mondiale de l'année. Les marcheurs Samuel Gatimba et Emile Ngui et le coureur de 400 mètres haies, Mwatalel Mpoké, ont aussi été écartés de la liste.
Merci à Yacouba pour l'espoir.
Le monde.
monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manirakiza de retour avec vous pour aborder les dossiers du jour. Le président nigérien Mohamed Bazoum souhaite une plus grande implication de l'Algérie dans le Sahel. Une demande réitérée lors de sa visite à Alger cette semaine, alors que la nouvelle constitution autorise l'armée algérienne à intervenir à l'étranger. Qu'est-ce qui peut changer avec un engagement accru de l'Algérie au Sahel? Abdulrahman Dia a posé la question au journaliste et analyste Seydik Abba, joint à Paris.
Dans les années 90, l'Algérie elle-même a été frappée par des mouvements terroristes et elle a pris le temps d'y faire face à la fois sur le plan militaire et aussi sur le plan de politique, puisque une loi sur la concorde avait été créée. Donc l'expérience peut bénéficier à la résolution de la crise au Sahel. En plus de ça, on sait que l'Algérie a une influence importante. Elle a connaissance de certains leaders de groupes djihadistes, que ce soit ceux qui sont ses ressortissants ou ceux qui ne sont pas algériens mais qui ont vécu ou qui ont des contacts en Algérie. Je pense à Iyad Agagali, sur lequel l'Algérie a une certaine influence.
L'Algérie est quand même partie prenante depuis 2015 de l'accord d'Alger, mais qu'est-ce qui pourrait changer aujourd'hui?
L'Algérie a été un peu absorbée par la situation intérieure. Le fait qu'il y ait eu une longue contestation de la volonté du président Bouteflika de se présenter à un nouveau mandat qui a entraîné la création du mouvement qu'on a appelé le IRAK, et le fait que la situation intérieure algérienne soit un peu incertaine a fait que les politiques algériens ne se sont pas investis dans le dossier non algérien. L'accompagnement de la crise malienne, l'accompagnement de l'accord de paix, de la mise en œuvre de l'accord de paix, a pâti de la situation interne à l'Algérie. Maintenant, ce qui change, c'est que la situation interne à l'Algérie s'est beaucoup améliorée. Ses dirigeants sont plus disponibles pour s'impliquer dans la résolution de dossiers régionaux, à savoir la Libye et le Mali. Ça, c'est un changement important. Mais aussi le fait qu'aujourd'hui, la France ait décidé de mettre en avant les pays du Sahel et même de favoriser plus une solution sahélienne à la crise sahélienne, à mon avis, remet l'Algérie dans le jeu et fait que l'Algérie peut avoir un rôle plus important. Il y a aussi une autre dimension qui ne nous a pas échappé, c'est que pour la première fois dans son histoire, l'Algérie a envisagé d'avoir une intervention militaire extérieure.
Et qu'en est-il de la rivalité entre l'Algérie et le Maroc? Le Maroc est quand même un partenaire privilégié avec beaucoup de ces pays du Sahel. Ça peut avoir un impact, vous pensez?
Lorsqu'on parle de la présence algérienne, le Maroc n'est jamais loin. Mais je pense que le Maroc a privilégié son engagement au plan économique. Je pense que la rivalité ne va pas s'exprimer au plan sécuritaire.
C'était le spécialiste des questions sécuritaires, Seydik Abba. Sixième jour de violence en Afrique du Sud qui ont déjà fait 72 morts. Nous vous en parlions en début de ce journal. Alors que de nombreux centres commerciaux et petits magasins ont été pillés, la peur des pénuries se fait sentir, notamment pour l'essence et la nourriture. Pour un témoignage, Claire Morigibourg a joint Eric Chiasuma qui vit à Johannesburg depuis 13 ans.
Bon, par rapport à la situation qui prévaut en Afrique du Sud, particulièrement dans la ville de Johannesburg et dans la province du KwaZulu-Natal, où on assiste aux scènes de pillage, de brûler de shops, c'est-à-dire de magasins et certains édifices de l'État. Mais aujourd'hui, dans la ville de Johannesburg, on assiste à un calme précaire, mais pas 100% calme, parce qu'il y a encore des tensions et certains magasins, par exemple, dans mon quartier, sont fermés. Dans mon quartier, il n'y a pas eu vraiment le désordre. Mais dans le quartier périphérique, par exemple, à Fos-Laurence, il y a eu le désordre, mais la police est là pour maintenir l'ordre, chercher à rétablir l'ordre, appuyé par l'armée que le gouvernement avait décidé de déployer dans les zones chaudes, c'est-à-dire dans les quartiers où il y a vraiment la tension règne.
Alors, les violences sont une honte pour le roi des Zoulous qui s'est exprimé aujourd'hui, qui appelle à la paix. Pensez-vous que cela va permettre un certain retour au calme?
Oui, je crois bien parce qu'il a un mot à dire par rapport à la situation, surtout qui prévoit particulièrement au KwaZulu-Natal où le désordre règne. Mais je pense que certaines autorités doivent aussi prendre parole pour appeler surtout les autorités de l'ANC parce que certains le pillent. Présente comme argument qu'ils sont en train de piller parce qu'on a arrêté l'ancien président Jacob Zuma. Voilà pourquoi je dois interpeller les autorités sud-africaines, particulièrement de l'ANC, de chercher à parler avec le PIF pour leur demander de rester calme et de laisser la justice faire son travail.
Certains habitants ont peur de manquer de nourriture et d'essence. Alors, est-ce que vous craignez les pénuries et est-ce que vous avez commencé à faire des stocks?
Bon, il y a déjà le cas des pénuries parce que j'ai suivi ça à la télé et dans certains quartiers où on dit qu'on aura pénurie pour le carburant, par exemple, même sur le produit alimentaire. Et il y a certaines personnes dans certains coins où les habitants se sont précipités pour aller faire le stock alimentaire pour garder à la maison pour le jour à venir. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Parce que jusque-là, la tension règne, surtout au KwaZulu-Natal. Au moment où nous parlons, la situation n'est pas encore calme, surtout là-bas. Et je pense que même dans les années à venir, nous allons assister à ce qu'on appelle l'augmentation des crimes, parce que tout le magasin pillé, ces gens-là, ils n'auront plus d'emploi, ils vont se déverser dans le nombre de chômeurs qui existent déjà.
C'était le témoignage d'Eric Chiasuma, qui habite Johannesburg depuis 2008. En Irak, c'est la colère et le désespoir. Près d'une centaine de personnes ont péri dans les flammes et une centaine d'autres ont été blessées après qu'un incendie a ravagé un centre de traitement du coronavirus dans un hôpital de la ville de Nasiriyah, dans le sud du pays. Un incendie similaire a ravagé l'hôpital Ibn Khatib de Bagdad en avril dernier, tuant plus de 80 personnes. Edward Yeranian fait le point pour VOA depuis le Caire, le récit de Michel Joseph.
Quelques heures après que le tragique incendie a ravagé le centre de traitement COVID-19 de la ville de Nasiriyah, dans le sud de l'Irak, les secouristes ont continué à fouiller les décombres pour tenter de récupérer les cadavres et les identifier. Des témoins ont déclaré que les bonbonnes d'oxygène utilisées pour traiter les patients atteints de COVID-19 dans une annexe de l'hôpital universitaire Imam Hussein ont explosé, provoquant un incendie dans l'établissement, laissant peu de survivants. Le docteur Ammar Zamili, porte-parole de la santé de la province irakienne de Tikar, où se trouve l'hôpital.
Le bâtiment qui a pris feu était mal construit et l'incendie s'est propagé très rapidement.
Un jeune homme voulait aider à sauver des vies humaines, mais les flammes l'en ont empêché.
Je suis arrivé tard lundi soir pour aider à sortir les gens du feu, mais j'ai trouvé les portes verrouillées et je n'ai pas pu entrer dans le bâtiment.
Un homme plus âgé a exprimé sa colère contre le gouvernement irakien et les responsables provinciaux, affirmant que le nouvel hôpital turc, officiellement inauguré le mois dernier, n'a pas encore commencé à accepter de patients. Ce qui ajoute à la tragédie. Une vieille femme qui a perdu plusieurs membres de sa famille criait de douleur alors que des personnes à proximité du bâtiment en ruine tentaient de la réconforter. De nombreuses victimes n'ont pas encore été identifiées car leurs corps ont été calcinés. Le Premier ministre Mustafa Kadhimi a accepté la démission du ministre de la Santé et promet un rapport détaillé sur ce qui s'est passé dans une semaine. Le président Barham Salih a déclaré hier sur Twitter que cette tragédie ainsi que l'incendie il y a quelques mois de l'hôpital Ibn Khatib de Bagdad étaient causés par la corruption et une mauvaise gestion de la part de responsables qui devaient améliorer la qualité de vie des Irakiens. Pour Qatar Abou Diab, qui enseigne les sciences politiques à l'Université de Paris, la corruption est révélatrice de l'incapacité de constituer un État irakien après l'invasion américaine de 2003.
Depuis 2003, on n'arrive pas à construire un État irakien. Il y avait une réussite de l'entrée américaine en Irak, mais dans les Baltic Nations, il y avait un échec. Et l'échec, après, a été amplifié par les pratiques de la corruption.
Deuxième grand producteur de pétrole au monde, l'Irak a officiellement dépensé près de 80 milliards de dollars sur son réseau électrique, ce qui est bien suffisant pour éclairer tout le Moyen-Orient. Mais le pays souffre toujours de coupures intempestives de courant. Des pans entiers du pays sont plongés dans le noir alors que les températures frisent ou dépassent les 50 degrés Celsius. L'Irak est également aux prises avec une résurgence de la pandémie de coronavirus.
Le président Joe Biden a plaidé hier à Philadelphie l'adoption d'une législation sur le droit de vote qui est au point mort au Congrès. Il n'a cependant pas défini de voie pour surmonter l'opposition républicaine. Ce discours intervient alors que les républicains des législatures des États cherchent à adopter des mesures restreignant l'accès au vote. Le point avec notre correspondante à la Maison-Blanche, Patsy Ouida-Koussouara. Le récit, Yacouba Ouedraogo.
Philadelphie, en Pennsylvanie, est symbolique. C'est le berceau de la démocratie américaine, avec des monuments tels que la Liberty Bell, la fameuse cloche de la liberté, qui célèbre la déclaration d'indépendance. Cette ville est devenue une toile de fond pour le président Joe Biden, qui relance ses efforts pour sécuriser les droits de vote.
Nous demandons à mes amis républicains du Congrès, des États, des villes et des comtés de se lever, pour l'amour de Dieu, et d'aider à empêcher cet effort concerté pour saper nos élections et le droit sacré de voter. N'avez-vous pas honte?
Joe Biden a appelé les démocrates à s'unir et à se battre, mais n'a pas présenté de nouvelles stratégies pour faire avancer un projet de loi fédérale qui élargirait l'accès au vote à l'échelle nationale. Ce projet de loi a été bloqué le mois dernier par les républicains.
La motion n'est pas acceptée.
Les États et non le gouvernement fédéral déterminent comment les Américains votent et comment leurs votes sont comptés. Cette année, au moins 17 États à majorité républicaine ont adopté des lois qui, selon les démocrates, rendront plus difficile la participation des gens, en particulier des minorités, aux élections. Lundi, les législateurs démocrates ont quitté la session parlementaire du Texas lors de la discussion d'un projet de loi similaire. Chris Turner, représentant démocrate de l'État du Texas.
Les efforts nationaux des républicains de supprimer des votes, les efforts anti-électoraux arrivent actuellement à un point critique dans l'État du Texas.
Pour leur part, les républicains affirment que ces lois sont conçues pour éliminer la fraude électorale. John Cornyn, sénateur républicain du Texas.
Il est fallacieux et carrément faux de prétendre que tout effort pour empêcher la fraude est une tentative voilée de suppression des votes.
Les droits de vote sont devenus une source de division partisane intense. Un récent sondage de l'Université de Monmouth a montré que 32% des personnes interrogées pensent que Biden n'a gagné qu'à cause de la fraude électorale, malgré l'absence de preuves. David Schultz est professeur de droit électoral à la faculté de droit de l'Université du Minnesota.
Celui qui le motive vraiment en particulier, c'est Donald Trump. L'affirmation de Donald Trump remonte même à 2016, lorsqu'il a déclaré que s'il ne gagnait pas les élections, ce serait à cause de la fraude électorale. Il a avancé les mêmes arguments avant les élections de 2020 et après. Donc une grande partie est conduite par Donald Trump, mais sa base et la base républicaine à ce stade aiment cet argument.
Un argument que Biden a appelé
le grand mensonge. Ce n'est que ça, un gros mensonge.
L'ancien que Biden a volé les élections 20 ont envahi le Capitole le 6 janvier.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction et de la production qui a permis la réalisation de cette édition. Michel Claire-Joseph, Lionel Lunanila Gahima. Joselle Morissin et Georges Léonard Sagno. Eric Manilakiza était à la présentation. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations 24 heures sur 24, restez branchés sur voafrique.com, sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. À la prochaine.